Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est l'heure de l'instant M.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Il y a tant de bonnes librairies partout en France où l'on réserve une table aux livres dont François Bunel a parlé le mercredi soir dans sa grande librairie de France 5. La télévision, oui, la télévision continue de faire vendre des livres. Les auteurs y sont d'ailleurs les bienvenus car des journalistes aujourd'hui, on se méfie et pour les universitaires, on conçoit du mépris. Alors un écrivain, ça oui, ça change, ça distrait et ça parle de tout. Peut-être, mais quels écrivains et pour parler de quoi? Quant aux 5 ou 600 romans de la rentrée, le cercle télévisuel s'est tellement resserré qu'il n'y a plus qu'une seule émission littéraire en prime time pour recevoir leurs auteurs sur les chaînes publiques. Une seule, la Grande Librairie, encore elle. En ces temps de réforme de l'audiovisuel public, tous les grands éditeurs français signent une tribune pour dire leur colère et leur inquiétude. Le média télé a abandonné les livres. Mènent-ils ces gens-là un combat d'arrière-garde? Sont-ils en partie responsables de cette débâcle médiatique? Question à deux grands noms de l'édition.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
L'Instant M reçoit deux grands éditeurs à mes côtés. Muriel Beyer, bonjour.
Bonjour.
On vous a connue directrice littéraire des éditions Plon. Vous avez lancé les éditions de l'Observatoire depuis. Vous publiez, entre autres, les écrits de Nicolas Sarkozy, les pensées du pape et celles de Michel Platini, mais aussi Michel Onfray, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, j'ai cité en...
C'est divers, oui, c'est ça.
Divers.
Oui, oui,
c'est
oui,
divers
oui.
Et variés. Invité également ce matin de France Inter, Olivier Nora, patron des éditions Grasset. Bonjour Olivier Nora.
Bonjour.
Éditeur, alors là aussi entre autres, car ils sont très nombreux vos auteurs, Laurent Binet, Serge Chalandon, Gaël Faye et la petite Pauline Delassue que je recevais hier à ce même
Absolument.
Micro. La tribune dont on parle ce matin est parue dans le quotidien Le Monde. Vous commencez, chers éditeurs français, par une phrase extrêmement surprenante. Vous dites, et c'est bien la première fois que l'on vous lit écrire cela, fin de la course irréductible, fin de la concurrence irréductible qui séparait nos deux mondes, la télévision et la littérature. Nous menons une même course au temps de cerveau disponible. Nous devrions nous unir. Un même combat, Olivier Nora? Un même combat?
Si vous voulez, on a très longtemps considéré que l'écrit et l'écran étaient incompatibles, ou en tout cas se cannibalisaient ou s'annulaient. Bon. On se rend compte aujourd'hui que, en fait, la question est plutôt transversale, c'est qu'est-ce qu'on peut préserver d'une culture commune, ambitieuse, de qualité, et qui suppose une attention soutenue, que ce soit du téléspectateur en matière de télévision, que ce soit du lecteur en matière de livre. Donc, je pense que la vraie coupe n'est plus verticale, si vous voulez, entre deux univers. Elle est horizontale entre ce qui participe de l'abêtissement général et ce qui participe d'une élévation de la conversation générale, pour aller vite. Voilà.
D'accord.
Et donc, de ce point de vue, oui, il y a une cause commune, parce que les lecteurs que vous allez former, accompagner, développer et contenter avec des émissions de télévision de qualité sur le livre sont des lecteurs qui seront aussi les téléspectateurs des émissions de qualité de la télévision. Et
de
en ce
demain.
Sens, c'est un jeu gagnant-gagnant, si j'ose dire, de spirale vertueuse au lieu de cette spirale décliniste qui sert le cerveau reptilien des contemporains.
La littérature générale a perdu du terrain, écrivez-vous. L'auteur est exclu de la vie médiatique, de la vie télévisuelle en tout cas. Et pourtant, les talk-shows invitent beaucoup d'écrivains. Oui, mais quels écrivains? On s'y plonge.
Ce soir, on avait envie de parler du métier d'écrivain avec l'une de celles qui vend le plus de livres en France, Delphine de Vigan.
Pour inspirer son titre, Des punaises de lit, on vous explique tout, Catherine Pancol est notre invitée.
Sylvain Tesson, c'est un éloge de la patience, votre livre.
Alexandre Jardin, bienvenue sur le plateau de Quotidien, c'est votre première télé pour ce livre.
Ça s'appelle Centre, c'est le nouveau Solers et c'est chez Gallimard.
Alors oui, ils sont les bienvenus dans C'est à vous, ils sont les bienvenus dans Quotidien, ils sont les bienvenus chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, quoique de moins en moins, on a eu du mal un petit peu à en trouver. Ils sont les bienvenus dans C'est politique, ils sont les bienvenus dans 28 minutes, Muriel Beyer, tous ces auteurs.
Alors ils sont les bienvenus partout. Je crois qu'ils ont beaucoup de choses à dire, donc ça c'est un bon point. Maintenant, est-ce qu'on parle de la création littéraire? Est-ce qu'on parle de l'auteur? Je crois qu'on utilise beaucoup les auteurs comme spécialistes, un peu de tout et de rien d'ailleurs, puisque dans les talk shows, vous avez souvent des auteurs, il faut qu'ils soient un peu connus dans ce type d'émission, c'est leur cahier des charges.
Un peu connus, je pense que c'est ça la première question que vous posez. C'est qui on invite à la télé? Qui?
Alors, qui on invite à la télé dans ces émissions-là de talk show? C'est plutôt des auteurs. Alors, si on parle des auteurs de documents, il faut qu'ils soient connus. Dans une émission comme celle de Ruquier ou de C'est à vous, on va inviter plutôt Platini, un jeune auteur qui débute. Sauf que, peut-être, on va inviter un jeune auteur qui débute, à condition qu'il monte beaucoup. Comme a été la surprise de Victoria Mas, par exemple, qui a fait vraiment un peu l'événement de la rentrée en tant que jeune auteur. Là, on l'invite, mais on l'invite après. C'est-à-dire qu'on arrive au secours de la victoire. Donc, c'est un petit peu différent de la manière dont on doit parler, un peu, de la création et de ce qu'est l'auteur.
De la même manière qu'on peut s'attendre aujourd'hui à des prix littéraires comme le Goncourt, couronnant des gens totalement inconnus du grand public, que la télévision va peut-être de temps en temps, parce que pas toujours, récupérer après coup, mais qu'on n'aura jamais vu sur un plateau télé auparavant.
Mais oui, c'est probablement très possible. Oui. Le Goncourt, au départ, était quand même créé pour couronner un jeune auteur, quelqu'un qu'on découvrait. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, mais bon, peu importe, ce sont des bons livres, et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, je ne me permettrai pas. Le problème, c'est que j'ai le sentiment que dans ces talk shows, soit c'est quelqu'un de déjà très connu, et qui est même en dehors du monde de la littérature, soit c'est arrivé au secours de la victoire.
En gros, c'est
Olivier Nora.
Personne connue sur sujet indifférent, ou personne inconnue sur un sujet devenu un sujet de société.
C'est ça.
Quid de la partie de la création, de la littérature
ou
de la pensée qui ne fait pas sujet de société.
Des deux dernières interviews de Leïla Slimani et de Virginie Despentes.
J'adhère complètement à l'idée qu'il y a une guerre des riches contre les pauvres et que c'est une guerre impitoyable. Parce que je crois que c'est un des thèmes obsessionnels pour certains d'entre nous de l'époque. Et je suis même pas sûr... qu'ils aient intérêt à la gagner, enfin qu'ils aient raison in fine de la mener, quoi.
Pour moi, les relations que les femmes ont avec les hommes ne sont pas que des relations d'ordre sexuel. Nous, les femmes, nous travaillons, nous nous battons, nous sommes soumises aux mêmes pressions que les hommes. Nous voulons simplement réclamer notre honte.
Alors oui, les émissions littéraires sont devenues rares, mais les auteurs sont nombreux. On a vu avec Muriel Beyer quels auteurs, pour parler de quoi. Vous soulevez là une question passionnante, Pierre Nora. Vous dites c'est une vitrine très mal éclairée. Olivier Nora, pardonnez-moi. C'est une vitrine mal éclairée. On les fait parler de sujets de société.
Enfin, c'est... Là, ce passage de la tribune qui parle de la vitrine mal éclairée, c'était pour dire... Le contenu des livres reste une source d'approvisionnement que va utiliser la télévision. Pour autant, ça n'est pas forcément une façon d'inviter des auteurs et d'éclairer l'auteur en tant qu'auteur, c'est-à-dire l'œuvre d'un auteur. On parle à peu près de tout, pour aller vite et pour généraliser, parce qu'on est toujours caricaturaux quand on généralise. On parle à peu près de tout, sauf ce qui fait que le livre est un livre.
Donc,
en littérature aujourd'hui, regardez, en littérature aujourd'hui, le cran d'arrêt dernier de la lisibilité, la sanction absolue de la qualité d'un livre, en tout cas, c'est ce qu'on appelle la sincérité ou l'authenticité. Tout le monde s'extasie dans un livre tellement authentique, tellement émouvant, tellement sincère. Quel est le rapport entre la sincérité, l'authenticité et la qualité? Aucune. Vous avez des livres insincères et très talentueux, et vous avez des livres sincères et absolument nuls. Bon, donc on est dans cette société de l'émotivité qui fait que on a confondu la sincérité avec la qualité. Mais de la même manière, on va confondre le spectaculaire d'un livre avec ce qui fait que c'est un livre. Et nous, ce qui nous attriste, c'est que dans ces temps où on voit bien une sorte de médiocrisation générale, d'appauvrissement émotif, il y a des créateurs, des auteurs qui peuvent enrichir la conversation mm-hmm. générale, mm-hmm. apporter un peu de beauté, et apporter un peu de réflexion, et ceux-là ne sont pas...
d'invisibilité.
Enfin, en tout cas...
à la télévision.
Qu'est-ce qu'on constate ? Qu'on a eu en mai, je crois, pour ne pas dire de bêtises, en juin 2019, mm-hmm. 3 émissions au minimum, qui, voilà, dans quelle étagère, sur France 2, ça disparaît. Livrez-vous, Public Sénat, ça disparaît. Entrée Libre, Chazal, ça disparaît.
Qui recevait des auteurs.
Voilà, on a fait la bêtise de dire qu'un livre un jour avait disparu, ça n'est pas le cas, et donc au nom de tous les signataires de cette tribune, je prie les animateurs de
télévision qui reçoit les auteurs et qui...
Non, exact, mais enfin, voilà. On a fait une erreur factuelle, donc je préfère le dire. Reste que, voilà, donc vous avez quand même... Déjà, à nos yeux, on n'avait pas assez de fenêtres à la télévision pour le livre. Pour le livre, je veux dire pour les écrivains, encore une fois.
Oui, pour les écrivains, pour les
penseurs, parce que les essayistes, c'est vrai aussi. Vous voyez bien à quel point le débat public dégénère, vous voyez bien à quel point il est difficile aujourd'hui d'avoir un vrai débat d'idées. On doit pouvoir, en démocratie, opposer des idées qui se confrontent. On doit pouvoir être d'accord sans s'anathémiser, sans se jeter... voilà. On doit pouvoir ne pas être dans la ségrégation et la haine dès qu'on est en désaccord. Ça s'appelle le débat. Le débat, c'est le poumon démocratique de la respiration de nos démocraties.
Mais
ça suppose des échanges. Des auteurs peuvent échanger.
Olivier Nora Muriel Meyer. C'est-à-dire, quand, d'un autre côté, je vois bien comment vous pouvez subir la mutation du marché de la télévision, je le vois très bien. Mais réfléchissons aussi à la question, est-ce que vous n'êtes pas aussi les acteurs de cette transformation, de la façon dont on utilise aujourd'hui les écrivains dans le débat public et dans le débat télévisé ? C'est-à-dire que quand on voit une grande partie, une partie en tout cas non négligeable de la production littéraire, de la production éditoriale, qui est consacrée à faire ce qu'on appelle des coups, qui est pensée en termes de martingale, c'est-à-dire l'auteur qui va faire parler ou le sujet qui va créer du bruit médiatique. Est-ce qu'ensuite on peut se plaindre que finalement les livres sont devenus de la chair à canon pour chaînes d'infos et que les émissions littéraires disparaissent ?
Bien vu.
Oui, bien sûr.
C'est le risque.
C'est le risque qu'on a depuis des années. C'est-à-dire, effectivement, il faut essayer de trouver, il faut que tout le monde se mette autour d'une table et y réfléchisse, il faut essayer de trouver un juste équilibre entre ce qu'on appelle le coût, parce que ça a toujours eu, il y a toujours eu des coûts, mais c'est une catégorie de livres, et il y a eu d'autres catégories de livres, mais je pense que ça, dans chaque maison d'édition, je pense qu'on le fait tous, on essaie d'équilibrer ça. Mais ça n'est pas, ce ne sont pas les mêmes créneaux. C'est-à-dire que quand vous faites un coup, vous avez un auteur, voilà, on fait un coup et ça va passer dans certains types d'émissions. Voilà, mais ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que vous avez un coup, ça va passer au journal de 20h si vous avez un énorme truc, mais après, ça ne doit pas entacher ce qui se passe autour de la création et du livre.
Sauf que ça occupe de l'espace médiatique.
Mais d'autres espaces.
Hier, Le Parisien aujourd'hui en France consacrait une double page au fait que, par exemple, la droite, en l'absence d'un chef et d'une parole médiatisée et incarnée, multiplie les livres, voilà, tous les leaders de la droite en tout genre, vous en publiez quelques-uns, Muriel Beyer, pour exister médiatiquement. Il y a des livres qui ne sont là que pour conférer une existence médiatique à leurs auteurs.
Pour le débat d'idées aussi.
Oui.
Pour le débat d'idées quand même.
Oui.
On essaye de faire des bons livres et de publier des bons livres, on essaye tous quand même.
Il y a des livres qui sont aussi des instruments de communication.
Bien sûr, on le sait tous.
Oui.
Mais il peut y avoir les deux. Ça peut être un instrument de communication et aussi nourrir le débat d'idées. Je crois qu'on ne peut pas scinder les choses en deux en disant c'est un outil de communication, certes, pour un homme politique, c'est évident. En même temps, à nous d'essayer que ces livres-là participent du débat d'idées. Après, on réussit, on ne réussit pas. Ça, c'est un autre débat. Mais ce sont des créneaux totalement différents.
Olivier Nora.
Non, vous avez tout à fait raison. C'est incontestable qu'il y ait eu une pipelisation croissante de la production éditoriale et que ce faisant, on soit les plus mal placés de constater, enfin de déplorer les conséquences audiovisuelles d'une pipelisation à laquelle on a présidé nous-mêmes. Qui est là-dessus une spirale dans laquelle on a rejoint les dérives croissantes d'un certain nombre de pratiques et de professions, c'est évident. Bien. Après, regardez ce qui se passe. De la même manière, je m'attendais à ce que vous nous disiez, vous êtes très gentil de déplorer la disparition d'émissions, mais enfin si ces émissions ont disparu, c'est qu'elles n'avaient pas l'audimat suffisant, donc vous ne pouvez pas demander à des acteurs, fussent-ils des acteurs du public, de développer en pure perte des émissions qui n'auraient pas d'auditeurs ou de téléspectateurs. Je pense que fondamentalement c'est ce raisonnement-là qu'il faut. C'est-à-dire, je pense que le postulat qui consiste à penser que plus on vise bas, plus on vise large, est un postulat qui est faux. Et c'est le plus souvent le postulat d'un certain nombre, en effet, de patrons qui ont le premier réflexe qui consiste à dire c'est en descendant qu'on va gagner le plus grand public. C'est pas vrai.
D'autant
c'est
pas ce vrai. Qui est il y a mille contre-exemples. Regardez, oui, oui. Regardez aussi ce qu'est le marché du livre aujourd'hui. C'est-à-dire
c'est
que
pas ça. C'est
on,
pas ça.
On présente volontiers dans le marché télévisuel le livre comme quelque chose qui n'est pas populaire. Or, les centres
c'est
Leclerc
le
vendent des
le
livres. Les centres Cultura vendent des livres. La Fnac vend des
mais
livres.
Évidemment.
La bande dessinée, le polar et la littérature jeunesse
les
vendent
salons du livre les salons région, du livre. Les salons du livre en région, les rencontres. C'est pas vrai. C'est extraordinairement énervé. On a un réseau de libraires comme nulle part ailleurs en Europe. On a un nombre de salons et de présences. Donc, c'est pas vrai. Il y a une demande, il y a une offre. Les deux sont de qualité. L'intermédiation pose problème.
C'est
ça. Et or, on a l'intermédiation pose problème. Et encore une fois, la radio prouve tous les jours qu'il y a moyen de viser haut et d'être en croissance. Vous en êtes un exemple, je parle de votre station, mais c'est vrai de France Culture, c'est vrai de... Regardez les chiffres de croissance de France Culture, ne me dites pas qu'ils ont abâtardi leur programme, c'est pas le cas. Ils ont été inventifs, créatifs, intelligents, volontaires, et ils ont nourri... Bon,
alors il y a quand même une dernière question.
Pas sous le pied
il y a quand
télévision.
Même une dernière
il y a moyen à la
question,
d'inventer
chers
des formats.
Éditeurs français. Est-ce que vous ne menez pas là un combat d'arrière-garde? D'ailleurs, vous parlez vous-même de préservation avant que tout fiche le camp, ou en tout cas d'un combat à très court terme. Évidemment, on sait que la télé demeure le premier loisir des Français, plus de 3 heures de consommation par jour et par personne, que son audience est encore massive. Mais qu'elles font cette audience à la vitesse de l'éclair et que les jeunes ne les regardent plus. Donc ma question c'est, est-ce que vous voulez vendre des livres aux femmes et aux vieux qui sont les piliers de l'audience de la télévision et qui sont aussi vos acheteurs, on va pas se mentir, hein? Ou est-ce que vous
on
vous réfléchissez
vendre des livres à tout le monde.
Oui, mais est-ce que vous réfléchissez à l'avenir? Est-ce que vous réfléchissez à l'avenir?
Ah nous, oui, bien sûr.
Oui,
bien sûr, évidemment. On sait parfaitement que il y a une tranche de population qui va lire moins. On n'est pas totalement idiot, on le sait. Maintenant, j'ai toujours pensé que notre force à nous, c'est d'avoir les contenus. Après, les jeunes ne sont pas plus idiots qu'on ne l'était, et je crois qu'ils vont peut-être se cultiver. Autrement,
oui, mais là, vous vous battez pour la télévision, qui n'est plus leur
alors,
média.
Alors, la télévision, elle a évolué aussi.
Oui.
Franchement, ça peut s'écouter en replay, ça peut s'écouter autrement. Alors, il est vrai que, bon, c'est vrai que les jeunes ne regardent plus la télé.
C'est vrai. Et c'est vrai qu'un en même temps, un auteur qui passe chez Quotidien, chez Yann Barthès, y vend et il est découvert des jeunes. La vraie question, c'est celle qu'on posait en ouverture de mission, c'est quels auteurs. Ils sont très peu d'entre eux à pouvoir parler. Olivier Nora.
Non, il y aura des formats nouveaux. Il y a des podcasts, etc. Il y aura des formats nouveaux. Est-ce que pour autant, il faut accepter cette givarisation de la place du livre et des écrivains à la télévision dans, encore une fois, ce qu'on pense être la préservation du débat public, c'est tout. Et quand vous me dites inventivité, il y a des formules, des moyens d'être plus créatif et plus inventif dans les formats eux-mêmes. Si on pense que le contenu du livre emporte quelque chose qui est un frein à l'audimat, encore une fois, nous ne pensons pas. Quand bien même postulerait-on que c'est le cas, on peut créer des techniques et des formats d'émissions qui sont addictifs avec du contenu de livre. Ne me dites pas que c'est pas faisable. Ça a été fait dans d'autres médias.
Oui,
donc
c'est faisable.
Encore une fois, c'est une volonté, de rendre la chose possible.
Se bagarre
Trappenard fait un truc génial avec 21
centimètres.
Génial. Sauf que ça passe tard, que c'est crypté
et que c'est réservé aux abonnés. Donc
voilà.
C'est très peu vu.
Donc ben voilà, Augustin a prouvé qu'il y avait moyen d'avoir de créer des formules. Alors. À la chaîne de prouver aussi qu'on pourrait rendre cette formule un tout petit peu plus accessible, surtout que justement, il a trouvé une martingale qui peut toucher les jeunes, Augustin.
Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette question qui est grave et qui est importante. Vous en appelez à la responsabilité des chaînes de l'audiovisuel public et on est en pleine réforme de l'audiovisuel en général, donc la question est cruciale. Muriel Beyer, donc, et Olivier Nora étaient les invités de l'Instant M. Bonjour Ali Rebéi.
Je suis hypnotisé par la voix d'Olivier Nora. Il a une voix de radio, hein.
Quand vous voulez.
Il a des yeux de télévision aussi.
Allez-y. Quand le numérique nous complique la vie, prendre un rendez-vous médical, payer ses impôts, actualiser sa situation de demandeur d'emploi, tout ceci peut se transformer en galère quand l'intelligence artificielle se transforme en bêtise bien réelle. Racontez-nous vos déboires au 01 45 24 7000.